Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Je suis Omar Odermatt, responsable de la rédaction. On continue aujourd'hui notre série de podcasts intitulée « La vie après Voix d'Exil ». Ces podcasts mettent en lumière les anciens collaborateurs, les anciens collaboratrices, rédacteurs et rédactrices, en retraçant leur parcours au sein de la rédaction et en s'intéressant à ce que cette expérience leur a apporté. J'anime cette série avec Elvana Toufa, membre de la rédaction. Bonjour Elvana.
Bonjour Omar.
Qui recevons-nous donc aujourd'hui, Elvana ?
Alors Omar, nous avons le grand plaisir d'accueillir notre cinquième invité, Guillaume Stern. Bonjour Guillaume, ça nous fait très plaisir de te revoir ici et sois le bienvenu parmi nous et bon retour à la maison, enfin presque.
Merci, oui, bonjour.
Donc Guillaume Stern a été civiliste à Voix d'Exil entre septembre 2021 et août 2022, en remplacement de ses obligations militaires. Et durant le temps qu'il a passé à la rédaction, il a accompagné les rédacteurs et les rédactrices dans la réalisation de leurs contributions pour le site. Mais surtout, il a participé à la coordination d'un événement d'envergure, la fête des 20 ans de Voix d'Exil, qui a été célébrée le 3 juin 2022 au Casino de Montbenon à Lausanne. Et ça me fait très plaisir de te revoir, Guillaume.
Alors, Omar, il a fait ta présentation. Mais on aimerait bien avoir ton point de vue sur toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, alors je m'appelle Guillaume Stern. Actuellement, je suis assistant diplômé à l'Université de Lausanne. Ça veut dire que je fais une thèse de doctorat et que parallèlement à ça, j'assiste la section de linguistique dans laquelle j'ai des enseignements pour les semestres à venir. Et je réalise ma thèse. Et aussi, je fais parallèlement à ça du bénévolat en tant que formateur de français langue étrangère dans un foyer de l'EVAM à Bussigny, quand j'ai un peu de temps.
Je vois qu'on est presque des collègues aussi. Moi, j'enseignais à l'université aussi. Alors, tu es parmi les personnes qui ont contribué à Voix d'Exil au cours de ces plus de 20 ans d'activité. Et vraiment, on est très heureux de t'accueillir dans ces séries. Pourrais-tu partager avec nous l'expérience de ta participation à ce média ?
Oui, alors très factuellement, les tâches que j'avais à faire, c'était accompagner Omar dans la gestion de la rédaction et donc accompagner les rédacteurs en fait dans l'élaboration de leur projet. Donc ce qui impliquait en gros de suivre l'élaboration d'un projet depuis sa conception jusqu'à sa réalisation et sa publication, hein, à aider les rédacteurs à mettre en forme une pensée pour Voix d'Exil. Et donc voilà en quoi consistait mon activité. C'est vrai que pour moi c'était une vraie expérience très enrichissante d'avoir pu faire ça et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pendant l'année où j'étais là.
Est-ce que tu as pu utiliser tes connaissances dans ton travail à Voix d'Exil ?
Oui, je pense que le fait que j'ai eu une formation en lettres est un atout parce que c'est vrai que moi j'ai été formé depuis très tôt à ma formation en lettres à réfléchir à comment problématiser un propos, comment élaborer une pensée, comment structurer un texte et ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai essayé de partager le plus que je pouvais avec les rédacteurs et les rédactrices quand j'étais là. Et donc vraiment je pense que ces compétences de lecture, de problématisation, de synthèse, de comment trouver un propos cohérent m'ont été utiles. Et par ailleurs j'avais déjà une expérience aussi en tant qu'enseignant de français langue étrangère, donc ce qui faisait que j'avais une certaine connaissance des difficultés que pouvaient rencontrer les rédacteurs et rédactrices
par rapport à la langue français.
Exactement. Mmh. Et ce qui fait que j'étais peut-être attentif et sensible à certaines difficultés qu'ils pouvaient avoir et que je pouvais anticiper dans une certaine mesure.
Donc tu avais à la fois une expérience sur le plan de l'enseignement, une expérience humaine, donc déjà eu un contact avec des personnes migrantes et à la fois, comme tu l'as dit, une expérience au niveau de la problématisation et la réalisation d'un texte structuré, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça et je pense que c'était deux compétences que je pouvais bien associer en fait, dans la mission qui m'était dédiée ici à Voix d'Exil.
Vu de maintenant, il y a un peu de temps que tu as fini ce parcours, c'est quoi Voix d'Exil pour toi ? C'était quoi ?
Parce qu'officiellement, Voix d'Exil, c'est un média oui. Et un programme d'activité. Est-ce que tu arrives à résumer Voix d'Exil
Les comptes avec
le passé
oui.
Ouais, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu, cette définition officielle de ce que c'est Voix d'Exil, hein, un programme d'activité, un média, etc. Mais c'est vrai que pour moi, qui ai eu la chance de voir le programme de l'intérieur, en fait, pour moi, après justement un an, comme tu disais, ce que j'en garde surtout, c'est vraiment plutôt les discussions, les échanges qu'on avait dans ce bureau. Vraiment, mais de manière tout à fait informelle, en fait, c'est presque tout ce qui n'avait pas forcément trait à la rédaction d'articles ou à l'élaboration de projets. C'est vraiment plutôt ces petites discussions ordinaires, ces conversations un peu spontanées sur des choses comme ça que j'ai pu avoir avec les rédacteurs. Et c'était ces moments-là, en fait, où on était en présence les uns des autres, on échangeait. Et c'était vraiment ça qui constituait pour moi le cœur après coup. Enfin, c'est maintenant que je le vois comme ça de mon expérience et de ce que c'est Voix d'Exil, puisque, en fait, c'était là aussi que j'avais l'impression d'être le plus utile et de faire le plus de sens vis-à-vis des rédacteurs. Rédactrice, c'était d'être partagé un moment en fait avec eux, d'être en présence et qu'on échange de manière vraiment spontanée, non réfléchie et vraiment agréable quoi.
Mais c'était surtout le chemin de fer et surtout les séances de lundi.
C'est vrai donc que c'était beaucoup ça, si on m'avait posé la
séance de rédaction du lundi, ouais. Donc chaque lundi matin, on a notre séance de rédaction à 10h. Oui.
Avec les rédacteurs, rédactrices, et Guillaume, il était le médiateur entre les chefs, les coordinateurs et les rédacteurs. Et du coup, le chemin de fer, c'était le résumé quoi, de la séance et le suivi des articles. Et je pense que le civiliste, à ce temps-là, il est vraiment très important.
Ouais, c'est vrai que c'était une de mes tâches principales les lundis matins et de garder un peu à flot en fait, tout ce qui se passait et avoir un œil sur tout ce qui se passe.
J'aimerais juste approfondir un propos que tu as tenu, notamment sur la question de ces discussions informelles que tu as pu avoir avec les rédacteurs et rédactrices. J'imagine que dans ces discussions informelles, tu es un peu entré dans leur monde, dans les questions qui se posent au niveau de leur intégration dans ce chemin de l'exil, hein, qui n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ces mondes un peu peut-être inconnus pour toi ? Est-ce que ça a été une surprise ?
Ouais, de toute évidence, on remarque la complexité des enjeux que pose la migration aujourd'hui, parce que c'est vrai que moi je pensais en avoir une connaissance, et j'en avais, je pense, une connaissance vraiment un peu détachée de ce que je pouvais en avoir lu, soit dans mon cursus, soit dans les médias, hein, mais le fait d'être confronté vraiment à des personnes en chair et en os en face de soi, c'était vraiment quelque chose de différent, et ça permettait aussi de calquer un vécu, en fait, sur ces connaissances que j'avais, ces savoirs que je pensais avoir, et en fait, qui déjouent toujours nos attentes, en fait, quand on est face à des personnes. C'est vrai que c'était aussi quelque chose de délicat parce qu'à chaque fois qu'on discute avec une personne qui a eu un parcours migratoire, on a un peu l'impression quand même de toujours devoir faire attention à ce qu'on dit ou de pas toucher des cordes sensibles en fait, si on veut bien. Et donc,
question qu'on pose aussi.
Exactement, ouais. Et ça m'a vraiment marqué quoi, dans ce sens-là, vraiment ce rapport direct que j'ai pu avoir brusquement en fait avec le monde de la migration.
Oui, par rapport à ce que tu as marqué, justement, est-ce qu'il y aurait quelques épisodes ou quelques moments marquants à Voix d'Exil qui tu souhaiterais peut-être partager avec nous ?
Oui, il y en aurait plein, il y en aurait presque un avec chaque rédacteur ou rédactrice que j'ai rencontré. Un qui me vient en tête spontanément, ce serait au tout début de quand je suis arrivé à la rédaction. Une de mes premières tâches que j'ai eu à faire, je devais accompagner une rédactrice qui s'appelait Doha Sheikh Al-Balad dans l'élaboration d'une interview comme on est en train de faire maintenant, et c'était sur un sujet que ni elle ni moi en fait ne connaissions. Enfin, c'était une interview avec Valérie Despons au sujet d'un spectacle qu'elle avait mis en scène. Et c'est vrai que ni elle ni moi n'avions connaissance de ce spectacle, ce qui fait qu'on a dû en fait se renseigner les deux sur cet événement. Et en fait, c'était vraiment ce travail d'élaboration conjointe où on s'est retrouvé en fait brusquement les deux au même niveau de connaissance d'un sujet. Alors certes, moi j'avais le français en plus, mais c'était vraiment ce moment où on a passé, je pense, une heure à travailler cette interview, à essayer d'élaborer des questions, à se renseigner, et puis pour en faire un podcast qui à la fin pour moi était vraiment de bonne qualité. Et puis j'ai vu vraiment de se poser des questions, enfin, trouver vraiment des angles d'approche d'une interview, et c'était vraiment un beau moment à voir, et c'était un des premiers que j'avais, donc c'était vraiment particulièrement marquant. Et après, peut-être aussi, si je peux en mentionner un autre, qui était particulièrement marquant aussi, c'était dans le cadre des 20 ans de Voix d'Exil, dont on aura sûrement l'occasion de reparler plus tard, une des premières fois où on a présenté ce projet en public avec Omar, c'était lors d'un colloque qui réunissait plusieurs collaborateurs et collaboratrices de l'EVAM, et on avait passé un certain temps avec Omar à bosser cette présentation qu'il faisait lui, et puis c'est vrai qu'on avait mis en place un PowerPoint qui était particulièrement réussi, je trouve, et qui, d'autant plus avec les capacités oratoires d'Omar, était vraiment, c'était vraiment un bon moment, je trouve, et on a eu des retours très positifs sur cet événement, et ça, je trouve que c'était un moment de collaboration, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je garde, c'est quand même la collaboration avec toi, Omar, où on a vraiment eu, je pense, des moments de vraie collaboration, on a vraiment réussi à faire des belles choses, à mon sens.
Bah, alors, je vois partager, cher Guillaume. On a vraiment passé. Oui, d'ailleurs, on va revenir évidemment sur les 20 ans de Voix d'Exil qui ont été vraiment le point d'orgue de ta mission ici.
En fait, Guillaume, il a vraiment mentionné des moments vraiment qui valent la peine à rappeler ou à se souvenir. Et du coup, tu as terminé ton engagement à Voix d'Exil en août 2022. Ça fait plus d'une année. Et tu réalises maintenant ta thèse de doctorat. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué juste après ton départ de la rédaction?
Parce que c'est des activités très différentes, oui. J'imagine.
Oui, c'est exactement ça, c'est le passage de l'un à l'autre. Sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme tel, mais disons avec du recul, maintenant je remarque que j'ai passé d'une activité où fondamentalement le but principal c'est de faire du lien avec les autres, c'est-à-dire d'être en relation avec eux et d'être présent pour les autres, à une activité qui, ben, comme on en a un peu l'image, une thèse de doctorat, c'est vraiment une activité solitaire et individuelle. Et c'est vrai que ce passage-là d'un travail de groupe où on avance collaborativement à une activité plus individuelle et... exclu dans son coin, c'était un peu peut-être la transition qui m'a le plus marqué et bouleversé à ce moment-là.
T'as eu du mal à t'adapter?
J'ai pas eu du mal, en tout cas je l'ai pas ressenti comme ça sur le moment même, mais c'est vrai qu'après coup je réalisais que le grand écart avait été quand même marquant, et je l'ai ressenti, mais plutôt après coup, la rupture vraiment, mais pas sur le moment même nécessairement.
Cependant, ce qui était étonnant, c'est qu'on avait quand même des connaissances communes, hein, parce qu'on a des parcours assez similaires, hein, académiques, et on a quand même pu échanger durant son passage à la rédaction sur des thèmes communs, d'intérêt, je dirais.
Oui, exactement, mais c'est ce qui a rendu aussi sur mon parcours d'autant plus appréciable. J'ai réussi à conjoindre vraiment mes centres d'intérêt de manière... tout à fait admirable, dans le sens où on avait effectivement ces discussions dont tu parles, des centres d'intérêt communs, et en même temps cette pratique de l'enseignement du français langue étrangère et ce genre de choses.
Alors, on l'a déjà mentionné, le 20e anniversaire de Voix d'Exil, tu as collaboré activement à l'organisation de cet anniversaire de Voix d'Exil, justement en juin 2022. Et c'était l'une de tes principales missions. En quoi consistaient les 20 ans de Voix d'Exil et ton intervention?
Oui, alors dans le cadre des 20 ans de Voix d'Exil, en fait, le projet, c'était une collaboration avec la Cinémathèque suisse, qui est basée à Lausanne. Et l'objectif, c'était d'organiser un événement conjointement avec la Cinémathèque qui permettait de mettre en évidence autant les productions du média que, enfin, vraiment d'essayer d'aller promouvoir le média via, en fait, cette collaboration-là. On a monté tout un projet qui consistait à ce qu'une classe de français de l'EVAM choisisse un film qu'il voulait projeter à l'occasion des 20 ans de Voix d'Exil à la Cinémathèque. Et donc, l'événement était vraiment en soi cette projection-là. Alors, on a mis plein de choses autour, hein, aussi, évidemment. On a essayé de créer un vrai événement plus complet, mais c'est vrai que le cœur de cet événement, c'était cette collaboration avec la Cinémathèque qui a culminé avec la projection d'un film qui avait été choisi par une classe de français de l'EVAM.
Moi, j'étais là, présente. Heureusement, j'ai eu la chance. Mais comment s'est passée l'organisation? Alors, je peux donner mes impressions après.
Ouais, c'était un vrai parcours du combattant. Quand même, cette organisation, il y a eu de tout, enfin, comme pour l'organisation de tout événement, à vrai dire, mais on a vraiment passé par différentes phases d'euphorie, des fois, de doute, très souvent, et ça, donc c'était vraiment très fluctuant, en fait, cette organisation, ouais.
Bah, je dirais que globalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé, et en plus, tu avais déjà une expérience dans l'événementiel. Et je me dis, vraiment, Guillaume, c'est la personne parfaite. Mais je pense que c'était plutôt structuré, non?
Oui, mais de toute évidence, je pense qu'on est tous contents du résultat auquel on a abouti. Et puis, ça faisait partie du projet aussi d'avoir des imprévus, des choses qu'on ne pouvait pas anticiper. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était plutôt réussi. Et puis, c'était un vrai challenge pour moi, parce que comme tu l'as dit, j'avais déjà fait un peu d'événementiel auparavant. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait de faire aussi un peu avec ce qu'on avait comme moyen. Hein, et puis, du coup, on a été obligé de faire, de se débrouiller comme on pouvait, pour au final donner effectivement quelque chose qui était un très bel événement, à mon sens, qui a vraiment rempli sa mission de visibiliser Voix d'Exil au grand public.
Tout à fait. Et peut-être pour entrer un peu dans les détails de l'événement, on a mis en place une démarche participative avec une classe de français de l'EVAM, peut-être. Est-ce que tu aimerais développer cet aspect?
Ouais, c'était ça faisait partie aussi.
Et tu as vraiment contribué à cette parcelle de l'événement, ouais.
Exactement, ouais, c'était des beaux moments aussi, ces moments où où je me suis rendu dans la classe de français de Cécile Miotte, que je salue depuis ici, avec qui, en fait, justement, bah, on a vraiment fait tout un travail. Alors, c'était pas uniquement demandé aux participants de la classe de choisir un film, pas arrivé de manière abrupte, mais on a vraiment essayé d'amener la chose en commençant par leur faire apprendre un peu de vocabulaire sur le monde du cinéma, enfin, vraiment travailler la langue à ce niveau-là, et ensuite de leur proposer de développer leur opinion, de justifier, de débattre autour de films qu'ils avaient envie de projeter. Donc c'était vraiment de voir l'élaboration de ce projet. C'est vraiment une belle chose et ça s'est fait au fil effectivement d'un certain nombre de séances en classe jusqu'à la sélection finale dans un processus qu'on a voulu démocratique tout du long. Ouais.
Omar, il a mentionné que tu avais déjà des autres expériences dans l'événementiel. Mais est-ce que tu as appris quelque chose en plus de cette organisation, cet événement?
Oui, parce que c'était quand même un événement d'envergure. C'était dans la plus grande salle de la Cinémathèque suisse, hein, la salle Paderewski, au Casino de Montbenon. Une grande projection de Sœurs d'Armes, de Caroline Fourest. Enfin, je veux dire, un grand cocktail, sans convives. Enfin, je veux dire, c'était pas un petit apéro avec des chips, quoi.
Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Pour le dire un peu facilement, je pense que ce que l'organisation de cet événement m'a appris, c'est que les choses sont toujours plus faciles à dire qu'à faire, hein, comme on dit souvent. Et là, c'était vraiment le cas, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un projet en arrivant qui était magnifique, hein, dont on était très convaincus, mais que effectivement, ben, les choses se passent pas toujours comme on prévoit. Et puis, ben, c'était ça ce qui faisait la beauté aussi de la chose. Enfin, c'était cette dimension où on devait apprendre tout au long du projet sur comment les choses allaient se passer. On pouvait pas anticiper. Et puis, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'envergure. Et c'est vraiment ça que j'ai appris, de ne pas se reposer sur le fait que le projet en soi suffit, mais qu'il faut toujours le tenir jusqu'au bout et tenir le plus longtemps possible.
Je rejoins complètement l'analyse de Guillaume. Ce projet était vraiment surprenant. Il a été parfois difficile. C'est un événement d'envergure. Et il y a eu beaucoup de contingences. Et j'ai trouvé juste génial comment on a collaboré dans ces moments un peu critiques et difficiles jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas si on avait les supports de communication. Et finalement, on a imprimé la nuit d'avant les supports pour faire une exposition. J'ai trouvé génial. Et j'ai trouvé super qu'on ait réussi à maîtriser la situation malgré tout ça. Et faire en sorte que le public ne voit quasi rien à la fin de tout ce qu'on a enduré pour en fait, advenir l'événement.
Oui, je voulais faire un petit retour parce qu'en fait, c'était l'expo aussi. Et en novembre, on a fait ici, au restant, on a fait l'expo pour le 20e anniversaire de Voix d'Exil. Ça a duré un mois, je pense, en novembre. Mm-hmm. On a pas mal travaillé, disons, ici à la rédaction pour la mettre en place et on a bien pensé à ça, mais c'est très bien passé. C'était intéressant parce qu'en fait, il y avait des gens qui s'intéressaient par rapport à l'expo. Et parfois, si des gens de la rédaction ils se trouvaient là, ils pouvaient faire des petites explications.
Oui, bah, je rebondis là-dessus. Je trouve que c'est une belle chose parce que c'est vrai qu'on a aussi pensé tout du long de la conception de ce projet à ce qu'il ne se résume pas à l'événement à la Cinémathèque. Alors certes, c'était le point d'orgue des 20 ans de Voix d'Exil, mais on a toujours fait en sorte que tout ce qu'on fasse puisse être remobilisé par la suite à d'autres occasions. Et donc, je suis très content de voir que notamment les supports de communication ont pu servir par la suite.
Et j'aimerais aussi souligner l'excellente collaboration avec la Cinémathèque. Je pense en particulier à Jordana Lang, médiatrice culturelle. Et on était un super trio, quoi.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire des autres projets avec le cinéma Montbenon?
Des choses sont en train de se mettre en place.
Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est bien à savoir. Guillaume, qu'est-ce que Voix d'Exil t'a apporté sur les plans professionnels et humains? On a parlé un peu, mais que retiens-tu de cette expérience?
Oui, bah, sur le plan professionnel, c'était une confrontation aussi avec le monde du journalisme. Moi, j'avais jamais pratiqué le journalisme et donc c'était se confronter à ce monde-là, hein, la manière de cadrer un propos, de l'anglais, hein, de réfléchir à la manière dont on l'aborde, parce que c'est des sujets délicats qu'on traite ici. Donc, toutes ces questions-là, propres à la pratique du journalisme, en fait, qui sont arrivées et que j'ai vraiment appris à découvrir et à maîtriser par la suite. J'ai aussi beaucoup appris sur les situations géopolitiques des différents pays en rencontrant tout simplement les rédacteurs et les rédactrices, hein, donc j'ai appris beaucoup de ce côté-là. C'est vrai que pour le côté humain, bah, c'est vraiment quelque chose comme une éducation du regard, presque, j'ai envie de dire, au sens de... on ne voit plus les choses de la même manière une fois qu'on a eu accès à ces témoignages-là ou à ces expériences professionnelles-là. On ne voit plus les choses de la même manière. On est plus attentif à l'autre, probablement. On est plus attentif à certaines choses. On apprend aussi à convertir toutes nos convictions en questions, finalement, oui. Parce que tout est toujours déjoué dans ce monde-là, exactement.
Est-ce que ça t'aide, donc, ta position t'a beaucoup aidé de te mettre à la place des gens dont tu as collaboré avec ?
Oui, bah, c'est clair que c'est des rencontres qui m'ont marqué et qui, je pense, participent activement à comment j'interagis aujourd'hui avec autrui et ce à quoi je suis attentif maintenant dans ma vie de tous les jours, ça, c'est sûr.
J'ai aussi une petite question pour toi, Elvana.
C'est vrai.
Oui, Guillaume, bah voilà, il provient du domaine de la linguistique. Hein. Tu as aussi enseigné la littérature.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir Guillaume au sein de la rédaction, qui est actif dans le monde académique, et c'est quand même un monde auquel tu appartiens aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir sa présence ici à la rédaction ?
Ça, c'est curieux, parce qu'en fait, je pensais à tous les civilistes qui ont passé à Voie d'exil, et ça dépend de la formation. Donc, avec les civilistes que j'ai travaillé ici, j'ai très bien passé, mais surtout avec Guillaume, parce qu'on venait de le même domaine. Et j'avais envie, même si on discutait, par exemple, on avait deux articles, je pense, avant qu'il partait. Moi, j'avais toujours envie de parler, et d'un moment ou d'autre, je me trouvais à parler de la littérature et surtout les traductions. Ça, je pense que c'est une maladie que j'ai toujours, chaque fois que je me trouve avec des autres universitaires, voilà, j'ai beaucoup envie de partager, de parler pour la traduction ou la linguistique ou je sais pas, justement, on... Avant de commencer le podcast, en fait, on discutait un peu pour les matières qu'il enseigne, Guillaume, à l'université. Et j'avais hâte de l'entendre, qu'est-ce qu'ils enseignent. Ils enseignent là, et spécialement Guillaume. Et il me parlait, en fait, de pragmatique. Oui.
Oui, et tiens, c'est quoi la pragmatique, en fait hein? Juste pour savoir ce que tu fais, parce que...
Oui, la pragmatique, c'est grossièrement défini comme l'étude du langage en contexte, donc vraiment travailler sur des énoncés produits, effectivement, et la manière dont le sens ne se résume pas uniquement aux mots qui sont employés, mais comment ils prennent sens dans des contextes toujours particuliers et de manière toujours un peu singulière, quoi. Donc, ce serait
en fait, on discutait même pour les traductions, parce qu'on respecte l'un à l'autre. Du coup, il m'écoutait pendant que je lui ai montré mes projets, et c'était la même chose avec lui, avec moi. En fait, justement, pour les civilistes, on a posé la question par rapport à la formation. Je pense qu'avec tout mon expérience et la présence ici à Voie d'exil, j'ai vu des civilistes qui viennent des différentes formations. Leur parcours ici, ça dépend justement de leur formation. Et la côté universitaire, littérature, journalisme, ou je sais pas quoi, c'est plus proche à la vie de la rédaction et c'est plus facile à comprendre que peut-être des autres professions. Est-ce que tu recommandes à d'autres civilistes une affectation à Voie d'exil ?
Oui, bien sûr, bah, pour toutes les raisons que j'ai énoncées avant, hein, l'expérience humaine que ça a constitué et tout ce que j'ai appris, et puis bah, de travailler avec des collègues formidables et de rencontrer toujours des gens, parce qu'on rencontre beaucoup de gens aussi quand on travaille non seulement à l'EVAM, mais plus particulièrement à Voie d'exil. Puis aussi, je pense que c'est important que les civilistes viennent ici, parce que ben, c'est vrai que c'est un média qui a besoin de moyens, enfin qui, à mon sens, mériterait plus de moyens, et je trouve que c'est beau d'avoir des gens qui peuvent se dédier à ça et donc se mobiliser en fait pour... travailler à la visibilité du média.
Un grand merci à Guillaume Stern d'avoir partagé avec nous son expérience à Voie d'exil. Je le rappelle, tu as été civiliste au sein de la rédaction de septembre 2021 à août 2022. Un grand merci également à Elvana Touffa pour cette merveilleuse interview. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet en laissant un petit commentaire juste en dessous de l'article ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par Voie d'exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Un sujet à retrouver sur voiedexil.ch.